Alors, chers amis, bonjour et merci. Je remercie particulièrement les organisateurs de cette université de m'avoir invité pour ce thème particulier, servir l'humain. Je crois dire qu'à Sylvanès, c'est ce que nous faisons depuis plus de 45 ans, bientôt 50 ans. Donc c'est une petite visite à travers ces 50 dernières années qui ont constitué à Sylvanès la renaissance d'un lieu qui était fermé, qui était ruiné. Mon exposé, je ferai d'abord une petite histoire, une histoire d'abord ancienne de ce lieu, comment ce lieu est né, comment il a été fondé, aussi comment il est rené dans ce renouveau, à travers à la fois un renouveau liturgique, mais en même temps un renouveau culturel. Puis ensuite, j'entrerai un petit peu plus dans les choses concrètes, parce que là, on va parler d'histoire, je vais être dans le récit, et après montrer comment, à travers toutes les actions que nous faisons à Sylvanès, qui aujourd'hui est un centre culturel de rencontre, qui a été labellisé en 2015, je vous expliquerai ce que c'est qu'un centre culturel de rencontre, comment, à travers nos différentes activités, nous servons l'humain, effectivement, à travers la culture, à travers les arts, à travers l'éducation artistique, à travers la rencontre et le partage, car je crois que si on devait définir le Sylvanès, c'est vraiment un lieu ouvert, fondamentalement chrétien, nous ne l'oublions pas, mais justement parce que nous sommes chrétiens, nous sommes largement ouverts à toutes les personnes qui passent et les cultures qui s'y déploient. Donc je vais commencer par l'histoire d'un lieu. Alors une histoire presque millénaire, alors je ne dirais pas 1000 ans, mais Sylvanès a été fondée en 1136, donc il y aura 9 siècles qu'elle aura été fondée en 2036. Mais également une histoire récente, puisqu'il y a à peine 47 ans, donc, cette abbaye allait ressurgir des ruines, allait ressurgir de l'oubli et de l'abandon. Alors, les origines, bien sûr, de ce lieu, c'est comment, à la fin du XIe siècle, dans notre France, je dirais, médiévale, catholique et missionnaire, naît l'ordre cistercien. L'ordre cistercien, donc, en 1098, très exactement, une réforme qui va être inspirée par Robert de Molem, un abbé clunisien, et Étienne Harding. Et puis, un petit peu plus tard, en 1115, donc, c'est Bernard de Clairvaux, qui deviendra bien sûr Saint Bernard, qui va venir revitaliser cet ordre qui était un petit peu déficient, avec 30 compagnons, neveux, cousins, oncles et tout, et il va assurer définitivement la pérennité de l'ordre, en lui donnant vraiment toute sa règle, une règle d'ailleurs qui va s'inspirer de la règle des origines du monachisme occidental, celle de Saint Benoît, bien sûr, mais également en structurer tout le mode de vie monastique, également l'art. Alors on peut dire que cette réforme cistercienne, elle est venue en réaction, en divergence à la fois théologique et esthétique avec l'abbaye de Cluny. En effet, Cluny représente pour les fondateurs de l'ordre une déviation de l'idéal chrétien dans les premiers siècles, avec une volonté de puissance, de pouvoir politique, de richesse, exprimée aussi dans un luxe esthétique et ornemental pour les cisterciens, en tout cas outrageusement futile et coûteux. En réaction, dont sitôt va s'imposer comme un retour aux sources pures des évangiles, au christianisme des premiers chrétiens, dans son idéal apostolique. Face aux richesses de Cluny, sitôt va défendre l'ascèse, le dépouillement, la simplicité, la grandeur, le travail et l'étude, la liturgie, la prière, la foi sans décorum, pour que puisse se parfaire le lien au divin dans une référence, je le disais, réaffirmée à la règle de Saint Benoît. Dans cet appel des origines, où la nostalgie du désert et de la solitude hérémétique joue un rôle essentiel, se déploie une nouvelle conception de la vie monastique, retranchée du monde, tout en s'y réalisant. Dans une théorie et une pratique de l'ascèse, un mode de gouvernement démocratique et fraternel, et un modèle économique et social reposant sur une relation neuve et épurée à la foi des évangiles. On connaît le développement fulgurant de cette réforme, puisque à la mort de Saint Bernard, en 1153, plus de 525 fondations vont couvrir l'Europe entière. Et en 1600, au milieu du XVIIe siècle, quand l'ordre atteindra son apogée, c'est plus de 740 fondations donc, qui émergeront dans tout l'univers européen. Alors l'histoire de Sylvanès, elle appartient à cette histoire de sitôt, mais elle trouve aussi son origine dans un romanesque médiéval, dans le conte, dans la légende. On racontait aussi qu'à à l'origine de cette fondation, donc un seigneur médiéval à la réputation un petit peu douteuse, Ponce de Leyras, un brigand. Alors Ponce de Leyras, c'est un jeune seigneur qui avait son château sur les hauteurs de l'Audève, à un endroit très, très stratégique, c'est le pas de l'Escalette, qui à l'époque était le seul chemin escarpé qui reliait la mer, le Haut-Languedoc, et bien sûr l'ancienne province du Rouergue, les plateaux du Larzac, donc c'était un endroit obligé de passage, c'est là où passait notamment la route du sel, donc un chemin très commercial, les Ponce de Leyras, donc avait une réputation de détrousseur émérite, de pillard de grand chemin, qui une nuit de Noël, eh bien, la légende raconte qu'il va être frappé par la grâce divine. Illuminé par la repentance, notre pécheur va expier publiquement ses fautes en place de l'Audève, devant l'évêque et toute la population, va s'engager, selon la légende, à restituer tous les produits de ses rapines, va mettre femmes et enfants dans différents monastères, et lui va partir faire les grands pèlerinages de l'époque, Saint-Michel, le Mont-Saint-Michel, Saint-Martin de Tours, Saint-Martial de Limoges, Conques, Saint-Jacques de Compostelle, et c'est au retour de Saint-Jacques de Compostelle que, sur l'invitation de Arnaud Dupont, qui est un seigneur du coin, il va venir s'installer avec ses compagnons dans la forêt, la vallée boisée de Sylvanès. Sylvanium, comme on l'appelait à l'époque, en référence, bien sûr, à la forêt. Là, il va y trouver tout ce qu'il faut, la rivière, l'eau, la forêt, des terres à cultiver, et puis, pas très loin, le bois, bien sûr, pour construire, la pierre aussi, les carrières sont proches, et puis, pas très loin, des sources d'eau chaude. Alors, là, ce n'est pas une communauté encore, je veux dire, monastique. Ce sont des ermites. Et c'est vrai que c'est dans ce XIIe siècle très spirituel, cette communauté, cet idéal de vie érémitique va attirer du monde, des hommes, des femmes. Et c'est là que Ponce de Leyras va avoir l'idée donc, de se rattacher à une règle, et il va choisir Citeaux, qui correspondait profondément avec son idéal de vie. Alors c'est donc de l'abbaye de Mazan, l'abbaye de Mazan qui se trouve en Ardèche, dans le Vivarais, dont il reste actuellement des ruines, qu'en 1136, des moines cisterciens vont venir rejoindre Ponce de Leyras pour venir fonder donc le nouveau monastère cistercien de Sylvanès. Et d'ailleurs, je dois préciser que c'est de la même abbaye de Mazan que des moines partiront pratiquement à une année de différence fonder le Toronnais en Provence. Voilà. Et on dit que Sylvanès appartient vraiment à cette grande lignée de construction monastique, Toronnais, Sénanque, Sylvanes, donc autant de lieux privilégiés où s'épanouir pendant de longs siècles l'accord de l'homme, l'accord très rare de l'homme spirituel avec la nature et bien sûr la terre. Alors la construction de l'abbaye commence en 1151, l'apogée sera brève, 13e siècle, 14e siècle, mais brillante. À la veille de la Révolution, il ne reste plus que 4 abbés commendataires qui assurent le service divin. Et la suite n'est qu'un long, je dirais, crépuscule, les affres de la Révolution. En 1791, la vente des biens nationaux, le Concordat, la Restauration, qui à Sylvanès va être une période de destruction massive hein, des bâtiments monastiques. L'abbaye va alors connaître plus d'un siècle et demi d'abandon et de ruines. L'église, fort heureusement, va retrouver dès 1801 une activité d'église paroissiale et les bâtiments monastiques, par contre, comme je vous disais, une grande partie sera détruite donc, et démantelée à la restauration et serviront de carrière de pierre. Seuls resteront la sacristie que nous avons, la salle capitulaire, le scriptorium, qui seront très rapidement transformés en ferme, en servant de basse-cour et de bergerie, alors que l'ancien logis abbatial, lui, servira après la Révolution, de mairie, puis d'école, et puis, bien sûr, de presbytère. J'ai oublié les photos. Là, il y a une petite photo, peut-être. Voilà. Bon, voilà. Donc, c'est bon, voilà. La Renaissance, c'est bien. Le prochain, si vous voulez. Vous pouvez passer. Voilà, très bien. Alors, revenez à la Renaissance. C'est dommage, j'avais pu avoir... Voilà. Alors, la Renaissance, eh bien, elle va se passer d'abord en 1970. Le maire du village, donc, M. Émile Castan, mon prédécesseur, parce que je suis actuellement de mon troisième mandat de maire à Sylvanès, conscient de l'importance de ce patrimoine, obtient le rachat de tout l'ensemble donc, monumental de Sylvanès et de son périmètre archéologique. À partir de là, l'histoire de Sylvanès sera une longue histoire d'amitié, de rencontres et bien sûr de musique. Je dois évoquer la première rencontre qui, pour moi, a été décisive, c'était en 1970. J'avais 17 ans. J'étais lycéen au lycée Bellevue, tout proche, là. Et c'est ma rencontre avec le André Gouze, donc, qui était un jeune frère dominicain, fraîchement rentré de coopération du Canada. Et je chantais aussi à la chorale de mon lycée. Et un jour, une de mes amies m'a dit, ben, écoute, voilà, on manque de voix d'homme. Est-ce que tu accepterais de venir chanter avec nous? Il y a un jeune dominicain qui rentre. Il commence à composer une musique tout à fait extraordinaire. C'est ce que j'ai fait. J'ai rejoint la chorale. Et je vais avoir le bonheur de participer, dans les années 70, donc, au renouveau liturgique du couvent des Dominicains de Toulouse, avec un groupe de jeunes étudiants autour d'André, avec lequel nous allons chanter la liturgie et constituer autour de lui un groupe d'amis. Voilà, un groupe d'amis. Au-delà de la liturgie, on se réunissait aussi les week-ends, on faisait de la musique ensemble, et c'est vrai que ça va constituer une communauté musicale très importante. C'est ensuite, donc c'est à Toulouse qui va commencer vraiment à structurer cette liturgie, qu'on appellera d'abord la liturgie toulousaine des frères prêcheurs. Et ensuite, donc, il s'installe. Alors d'abord, non, d'abord, bien sûr, revenir à notre maire, M. Castan. Donc en 1974, il y aura une deuxième rencontre importante, c'est celle d'André avec M. Castan, le maire du village, qui lui exprime son souci devant l'avenir de ce patrimoine grandiose dont la charge s'avère impossible pour une petite commune rurale. Je le sais maintenant, je sais quel est le budget qui m'est imparti. C'est vrai qu'on ne peut pas faire des merveilles. Donc il avoue avoir été contacté déjà par des acquéreurs potentiels suisses et belges. Et il hésite, car il est conscient que cette abbaye, elle est fondamentalement liée à l'histoire, à l'identité de son village, de sa population, mais aussi de ce territoire. Parce que rappelez quand même que les moines cisterciens de Sylvanès ont été des grands organisateurs de l'espace agricole, dont encore aujourd'hui, les grandes exploitations agricoles sont vraiment dans cette configuration que les moines déjà avaient décidé en structurant l'espace agricole du pays. Alors bien sûr, André va l'exhorter à ne pas céder à la facilité et va lui proposer de monter un projet. Et c'est à la suite de cette entrevue que, durant l'été 1975, donc, il va nous entraîner, nous, le groupe d'étudiants, pour passer un été à Sylvanès. Nous allons occuper les lieux qui étaient dans un état de délabrement inimaginable. Et là, nous allons, bien sûr, chanter la liturgie, chanter autre chose, nettoyer et surtout rêver. Le lieu nous séduit. Il nous touche au cœur. Il faut faire quelque chose et le sortir de l'oubli, de l'abandon, de la ruine. En septembre, bien sûr, nous rejoignons tous nos différentes universités où nous étions. André, lui, va décider de rester avec l'autorisation de ses supérieurs dominicains et avec l'aval de l'évêque de Rodez. Donc, il va s'installer dans l'abbaye, reprendre la cure de la paroisse à la grande joie de tous les habitants. Et là, je dirais que ce sera le premier acte fondateur d'engagement et d'enracinement de notre aventure dans ce patrimoine. C'est très important. Je crois que là, vraiment, on a mis la graine et qui, bien sûr, va grandir. En juillet 67, donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire quelque chose pour un beau patrimoine? On crée une association. C'est ce que nous avons fait, dont les Amis de Sylvanès, avec un ambitieux projet pour préserver, donc, qui était de préserver, promouvoir la nature propre de l'abbaye en remettant en valeur son patrimoine architectural, son patrimoine spirituel, culturel, à la fois par la restauration, l'animation et la création. Alors cette association, elle préside toujours, depuis de sa création au développement de l'abbaye, dont la vocation, et c'est ce que nous confirmons aujourd'hui, sera de devenir un haut lieu liturgique de spiritualité, d'art sacré, mais aussi un centre de rencontres culturelles, musicales, artistiques et éducatives. Conscient que ce lieu allait pouvoir se mettre au service de nos contemporains, en quête de sens et de spiritualité, dans une démarche d'accueil, de rencontre, de dialogue, de réflexion et de partage. Trois années un petit peu difficiles, mais il y a eu la manne aussi publique. En 1978, une première charte culturelle va être signée entre le département de l'Aveyron et l'État, bien sûr, qui va permettre de lancer une première dynamique, donc de restauration, d'accélérer la reconquête sur les ruines et l'abandon, et de donner des lieux convenables à cette mission que nous étions donnés. Alors, c'est là où il va y avoir une démarche assez systématique et singulière de restauration du patrimoine. Dans un premier temps, nous avons recréé dans les anciens bâtiments monastiques une hôtellerie, car déjà on commençait à recevoir du monde pendant l'été. On a ensuite entrepris la restauration des parties classées, le cloître, le salle capitulaire, la sacristie, le scriptorium, le logis abbatial, et on a terminé donc par l'église, magnifique restauration, et également d'équiper bien sûr ce lieu en matériel pour accomplir cette mission d'hospitalité et d'animation. En 82, dont la commune va nous céder, à nous, l'association, la gestion du patrimoine par un bail emphytéotique, donc de 99 ans, il est loin d'être terminé. Et puis je peux dire que de 2018 de 1918 à 2010, la restauration, les aménagements du site et la création de ces structures d'accueil et d'animation ont injecté dans l'économie locale plus de 12 millions d'euros. Voilà, et qui ont des travaux qui ont été réalisés à 80% par des entreprises locales. Ça aussi, c'est important que ces lieux puissent quand même avoir une réalité dans leur réalité et une énergie dans les territoires où ils sont. Alors, pendant près de 40 ans, nous avons animé et fait vivre ce lieu dans une gouvernance, je dirais, un tandem un peu bicéphale. Hein. Il est vrai que moi, de mon côté, je n'envisageais pas de rester à Sylvanès. Je voulais faire une carrière de musicienne, de chanteur. La vie en a décidé autrement. Des questions de santé m'ont un petit peu torpillé ma carrière de chanteur. C'est là que j'ai décidé de m'engager complètement dans cette aventure. Et avec confiance, avec la confiance qui m'était accordée, d'être un petit peu le vis-à-vis d'André qui, lui, allait travailler à toute la vie liturgique, pastorale, musicale du lieu. Et moi, j'allais travailler à la mise en place de toute la dimension culturelle et artistique. Alors, je crois qu'on peut visiter le scriptorium. Vous voyez un petit peu. Vous voyez les photos un petit peu. Voilà. La bergerie, c'est la bergerie. Ensuite, l'église abbatiale. Alors, l'église abbatiale, la première fois qu'on l'a visitée, c'est pas en 75, c'est en 72, où après une célébration de la Semaine Sainte que nous avions vécue à Sylvanès, le père Gousse m'avait invité de venir passer quelques jours chez lui. Et un jour d'avril, donc, il m'a dit, tu vas voir, on va visiter, il y a un lieu merveilleux. Donc, il est allé demander la clé à la dame du village, qui était la gardienne, qui gardait la clé. On est rentré dans ce lieu, vous voyez un petit peu l'immensité de cette voûte. Elle était verdâtre. Jusqu'au sommet, parce que les écoulements d'eau ne se faisaient plus, donc toute l'humidité, depuis des décennies, était remontée jusqu'à la voûte, et le sol était en permanence mouillé, l'eau, il y avait l'eau. Voilà. Voilà, donc c'était la grotte, et là, bon, on a chanté, on a bien su, et on s'est mis à rêver. Et en fait, on a eu un rêve prémonitoire de se dire, ah, si on avait ce lieu, on ferait ça. Et en fait, c'est ce que tous nous avons réalisé dans les 40 années qui ont suivi. La chose est merveilleuse, mais c'est bien aussi de temps en temps d'être aussi dans l'histoire, la légende. Voilà. En tout cas, bien sûr, je ne vais pas trop longtemps évoquer quand même l'immense travail de création musicale que le père André Gousse a pu réaliser, d'abord au couvent de Toulouse, mais surtout à Sylvanès, vraiment, où là, il a pu parfaire et accomplir la création d'un corpus liturgique de plusieurs milliers de pages, que l'on appelle la liturgie chorale du peuple de Dieu, qui est certainement l'une des plus importantes écrites en français, mais aussi en partie traduite en dizaines de langues, hein, très bien, sur des textes de la Bible, des écrits des pères de l'Église. Il compose une musique qui s'inspire et fait revivre les plus authentiques traditions musicales du christianisme, chant grégorien, chorale de la Réforme, polyphonie ancienne, chant populaire, sans oublier la modalité slavo-byzantine. Voilà. Restaurant ainsi une mémoire de la foi apportée par cette liturgie profondément enracinée dans la tradition des premiers siècles, mais capable d'un langage contemporain largement ouvert au peuple de Dieu qui tout entier est l'acteur de la liturgie. C'est important quand même de le signifier parce que c'est ce qui a fait pendant de nombreuses années aussi le rayonnement, la renommée de ce lieu. À Sylvanès, on y venait pour chanter la Sylvanie, on y vient toujours d'ailleurs, hein, et surtout pour se former à cette pratique liturgique. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de dire que Sylvanès, ce n'est pas que de la jolie pierre restaurée, hein, c'est vraiment un lieu de vie, c'est un lieu qui appartient au passé mais qui n'est pas que du passé, il est solidement enraciné dans le présent où se pense, se prépare et se bâtit l'avenir qui vient. Je dirais que c'est un lieu vraiment d'alchimie culturelle où se sont rejoints la richesse menacée d'un patrimoine, une mémoire, un milieu humain complice et solidaire et une vaste mission spirituelle et culturelle dont le rayonnement s'étend à travers toute la France, l'Europe et bien au-delà. On a été également reconnus dans notre restauration, puisqu'aujourd'hui on est grand site d'Occitanie, aux côtés de Millau et Roquefort. Et depuis 2013, je dirige maintenant cette aventure seule, avec une équipe, enfin seule pas vraiment, j'ai une équipe solide et motivée à mes côtés. Mais André donc n'est plus là, atteint par une maladie insidieuse, donc qui est la maladie d'Alzheimer. Donc il a fallu effectivement passer, ça a été un moment difficile, mais nous l'avons fait. Alors aujourd'hui donc, voilà, la vie liturgique, ça c'est une belle nuit de Pâques, vous voyez les mondes qui viennent du monde, en fait, de la France entière, et puis la vie culturelle, avec notamment les grands concerts. Alors, un centre culturel de rencontre, ce qui m'a permis effectivement de passer ce moment difficile où tout d'un coup je me retrouvais seul à la tête d'un immense navire, c'est que nous, en 2015, nous avons été labellisés Centre culturel de rencontre, et qui est venu un peu conforter 40 ans d'activité. Donc je n'ai pas parlé de ce que nous avons fait pendant ces 40 ans, mais ce que je vais parler maintenant, qui est devenu les axes prioritaires de nos actions, nous le faisions déjà. Nous étions Centre culturel de rencontre déjà de fait. Voilà. Alors c'est un label qui est décerné par le ministère de la Culture. Les centres culturels de rencontre sont généralement des monuments anciens qui ont perdu leur vocation première et qui connaissent un renouveau à travers un projet culturel et artistique d'intérêt général qui contribue non seulement à la restauration et à l'entretien, mais surtout à faire de ces lieux des espaces d'accueil, de vie, de rencontre, de création et d'innovation. Alors les CCR, on dit les CCR, les centres culturels de rencontre, ont pour objectifs principaux la mise en valeur du patrimoine, évidemment, qui est souvent notre source, favoriser grâce à l'éducation artistique et culturelle un accès équitable à la culture du plus grand nombre et aussi la participation à la culture et aux arts en général, d'être des lieux de création, d'innovation culturelle, favorisant la présence artistique dans les territoires prioritaires grâce aux résidences d'artistes que nous organisons, de créer des espaces de rencontre, de réflexion sur les évolutions de nos sociétés et sur le monde de la culture plus particulièrement, favoriser également l'insertion professionnelle des jeunes artistes et des jeunes créateurs, contribuer au développement touristique et économique des territoires ruraux. C'est vrai que nous jouons d'une forte attractivité qui a attiré, vous savez, Sylvanais, je ne sais pas si vous connaissez, mais Sylvanais, c'est quand même le fin fond de l'Aveyron. Quand on y est arrivé il y a 40 ans, vraiment, il y avait plus de brebis que d'habitants. C'était le trou, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, il y passe plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc comment la culture aussi peut être cet élément fort, jouer d'attractivité et être vraiment, je crois qu'à Sylvanais, on peut dire qu'on est un très très bel exemple, une riche expérience et un exemple très réussi d'aménagement du territoire et de développement économique et social du monde rural par la culture et le tourisme culturel. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de parler avec la culture aussi d'économie, car aujourd'hui la culture génère de l'emploi et génère de l'économie. Voilà. Alors, contribuer. Alors, je dois préciser aussi que chaque centre culturel de rencontre poursuit et développe de manière transversale son projet autour d'une thématique spécifique. Nous, à Sylvanès, nous avons choisi comme thématique musique, au pluriel, musique, et dialogue des cultures, avec comme objectif, à la fois, c'est expérimenter, partager et transmettre. Donc, autour de 5 pôles d'action prioritaires, alors le premier, on l'a beaucoup évoqué, puisque tout part d'un patrimoine, donc c'est comment on va mettre en valeur un patrimoine, l'interpréter, le valoriser, développer l'attractivité que ce site peut procurer. Et en fait, le but, c'est de permettre au plus grand nombre d'entrer dans l'intelligence, dans la compréhension de ce patrimoine, la connaissance de son histoire, la grandeur de la spiritualité qui a vraiment inspiré ce patrimoine, mais aussi sa vocation culturelle contemporaine, car aujourd'hui, c'est un lieu qui vit, qui est vivant. Et c'est vrai que parfois, quand on voit l'été, quand les visiteurs viennent, ils sont un peu parfois surpris de voir de la musique qui sort de toutes les fenêtres, de toutes les salles et tout, parce que le lieu vit. Mais en même temps, c'est aussi un plus, parce que c'est vraiment la preuve que ce lieu est bien vivant et qu'aujourd'hui, il a retrouvé une fonction tout à fait ouverte et accueillante et surtout disponible à tous ceux qui le souhaitent. Voilà. Dans le patrimoine aussi, nous accompagnons la commune, et j'en parlerai peut-être plus tard, dans un gros projet d'extension que nous avons et d'aménagement des bâtiments pour répondre aux exigences à la fois de notre descente culturelle de rencontre. Ça, c'est le premier pôle. Et le patrimoine, c'est important, parce que, vous savez, le patrimoine, il faut le sauvegarder. C'est ce qui définit nos identités, nos origines, les sources de nos civilisations. Quand on veut tuer un peuple, on détruit son patrimoine. Voilà, donc c'est tout simple. Donc il faut vraiment aujourd'hui lui redonner toute sa place, et c'est ce qu'on fait en France. Je crois quand même on a cette chance aussi d'avoir quand même cette mission donc, qui est parfaitement accomplie. Le deuxième axe important, donc, c'est tout ce qui va tourner autour du festival. Le festival, ça a été la première manifestation que j'ai créée en 1977. Alors évidemment, un festival à l'origine très modeste, on n'avait pas les moyens, donc c'était une programmation tout à fait, je dirais, éclectique. On faisait un petit peu de tout, mais très très vite, on s'est mis à l'écoute à la fois du lieu et également des gens qui venaient. Et il se trouvait que ce que nous renvoyaient les gens, c'est qu'ils trouvaient qu'il y avait certaines musiques qui n'avaient pas véritablement leur place dans ce lieu, alors que d'autres, au contraire, y prenaient une pleine dimension, une totale résonance. Et c'est comme ça que progressivement, nous avons orienté ce festival vers la musique sacrée. Voilà, et musique chorale, musique sacrée, bien sûr, les répertoires surtout occidentaux. Et puis, les années passant, on a eu envie aussi de s'ouvrir vers les traditions de l'Orient chrétien. On est allé d'abord vers les pays de l'Est, l'orthodoxie, puis carrément les églises d'Orient, hein, syriaques, maronites, en fait, toutes ces églises-là. Et puis, bien sûr, partant de là, il y a eu après l'ouverture sur le bassin méditerranéen. Et là, ça a été une première rencontre avec les traditions musicales du judaïsme et de l'islam. Voilà. Et puis, on est encore allé plus loin. Et là, on s'est dit, un lieu comme ça, fort de son identité, doit être un lieu d'ouverture, un lieu qui peut permettre effectivement des rencontres, des partages. Et la musique est un langage universel qui, effectivement, permet à tout le monde de faire du commun, du collectif. On peut faire de la musique ensemble sans avoir à parler la même langue. Par contre, la musique est un langage universel qui rassemble. Donc aujourd'hui, le festival, c'est toujours un festival de musique sacrée, mais également un festival qui montre les musiques du monde, dont elle donne à entendre les musiques du monde. C'est la 45e édition en 2022, donc cet été. Vous trouverez des programmes là, effectivement. Et pour nous, c'est un festival qui, justement, comme je le disais, organise des espaces un peu privilégiés de rencontres, où on va se mettre à faire de la musique ensemble, à s'écouter, toujours dans un respect profond de l'un et de l'autre, mais toujours en trouvant, à un moment donné, un langage commun. Voilà. Et c'est ce qui est assez extraordinaire dans ce festival, donc, qui répond complètement à la thématique du Centre culturel de rencontres, à savoir musique et dialogue des cultures. Alors, autour de ce festival, il y a quand même beaucoup de choses que nous faisons. D'abord, nous sommes aussi tournés vers la musique contemporaine, de plus en plus, et nous intensifions les commandes d'œuvres auprès de jeunes compositeurs, donc, et nous permettons à ces jeunes compositeurs de la réalisation de ces œuvres, donc à la fois dans le cadre des résidences d'artistes qui permettent aux artistes de venir sur le site et de préparer l'œuvre, et bien sûr, leur création dans le cadre du festival. Voilà. Favoriser donc la présence d'artistes, auteurs, compositeurs, interprètes dans le cadre des résidences, ça c'est très important. Ce sont des lieux qui sont tout à fait favorables au travail, surtout en dehors de l'été, où là, je dirais, les grandes foules sont passées et il y a toutes les conditions donc, pour pouvoir travailler, créer, composer et bien sûr faire de la musique. Comme je l'ai déjà dit, ce que nous encourageons aussi à travers le festival, c'est l'insertion professionnelle des jeunes artistes, donc dans les créations que nous faisons ou dans les productions musicales que nous montons. Voilà, c'est important de dire d'ailleurs que beaucoup de ces jeunes artistes ont été formés dans le troisième pôle, qui est celui de pôle formation, hein, et qui, bien sûr, après, nouent des liens, nouent de l'amitié avec le lieu et régulièrement, donc j'ai plaisir à les programmer dans les différents programmes musicaux que nous faisons pendant l'année et l'été. Voilà. Le troisième pôle, donc, comme je viens de le dire, c'est un pôle de formation, de pédagogie spécialisée pour le chant, qu'il soit amateur ou professionnel. À la fois, nous avons le souci de renforcer la pratique chorale amateur, c'est important. La pratique chorale amateur, c'est vraiment le lien social, la rencontre avec les autres, le chanter ensemble, le collectif, qui est très très important, où se créent vraiment des liens d'amitié, un lien social vraiment à travers la musique. Nous le pratiquons à travers différents stages, bien sûr. Et puis, bien sûr, renforcer la formation vocale professionnelle. Alors, donc, nous avons deux types de formations. La formation professionnelle qui s'adresse à des jeunes donc, qui sont en passe de devenir professionnels ou qui le sont déjà et qui souhaitent un perfectionnement à leur pratique musicale. Donc, c'est des masterclass, surtout sur le chant, qui sont organisés avec des professeurs éminents, bien sûr. Des ateliers, stages aussi de direction chorale. Et un atelier lyrique, donc, ce qui permet effectivement d'avoir un travail beaucoup plus spécialisé, plus approfondi. Et puis on a ce qu'on appelle la formation de loisirs, où là, effectivement, nous touchons au vaste monde de la pratique chorale amateur. Alors, nous avons régulièrement des stages qui portent sur des traditions, de chants traditionnels ou de chants sacrés. Je vous cite un petit peu ce que nous allons voir cette année. Là, on va avoir un stage sur les polyphonies bulgares, le chant grégorien, bien sûr, le chant du Moyen-Âge, le chant des églises d'Orient et d'Occident, les chants de la Méditerranée, le monde poétique et musical séfarade et arabo-andalou, les polyphonies corses et les polyphonies traditionnelles, bien sûr, occitanes. Et nous aurons même cette année un nouveau stage, donc c'est le chant diphonique mongol, vous voyez un petit peu. Donc ça, c'est des gens qui vont à la découverte de ces répertoires. C'est toujours dans cette démarche-là. Ce n'est pas des stages professionnels, mais c'est des stages toujours qui se terminent par des moments, bien sûr, de partage avec le public qui passe à l'abbaye. Et c'est vraiment toujours très, très intéressant et passionnant. Après, on a ce qu'on appelle les ateliers chorales production ou académies de chœur et d'orchestre, où là, on prend sur un thème donné des choristes amateurs, donc qui vont venir, qui vont être formés par un encadrement professionnel de haut niveau, chef de chœur, pianiste, chef de chant, et on va monter une œuvre donc, qui va être donnée dans le cadre du festival. Voilà. Cette année, on va travailler le Stabat Mater de Dvorak, l'Hivermeil de Montserrat, le Miserere d'Hoffmann, une messe de Schubert. Là, c'est vraiment, je dirais, une rencontre très créatrice entre les amateurs et les professionnels, parce qu'après, les amateurs vont rejoindre l'orchestre, vont rejoindre les solistes et bien sûr le chef d'orchestre. Voilà, ça c'est très intéressant de montrer comment les mondes se rencontrent, on ne les disloque pas, au contraire, il n'y a pas les pros d'un côté et les amateurs de l'autre, mais au contraire, on crée ces rencontres pour donner effectivement à des gens qui ont une pratique tout à fait simple, vertueuse, mais en tout cas simple, sans aucune prétention, de monter en qualité musicale et en professionnalisme musical. Alors le quatrième pôle, celui-là est vraiment celui qui a notre affection particulière, car c'est le pôle d'éducation et pratique artistique et culturelle. Maria Montessori disait « Libérez le potentiel de l'enfant et vous transformerez le monde avec lui ». Et c'est vrai que ce pôle-là touche bien sûr en priorité les enfants et les adolescents. Depuis de nombreuses années, dont nous avons été identifiés comme pôle d'éducation artistique par le ministère de la Culture, mais également l'Éducation nationale, et nous accueillons tout au long de la nuit des centaines d'enfants qui vont venir dans différents projets, hein, bien sûr. Et le but, bien sûr, c'est, dans un premier temps, leur permettre de découvrir un patrimoine, de le comprendre. Hein. On les amène dans l'histoire de ce patrimoine et vraiment... Et également dans l'histoire de tous les gens qui ont participé à la création de ce patrimoine et pourquoi. Ça, c'est très important. Ensuite, on va les associer dans des pratiques, je dirais, individuelles et collectives, des rencontres avec des œuvres, avec des artistes. Et ces actions ont pour objectif de permettre à ces jeunes de se construire une culture personnelle, riche, diversifiée, qui est un puissant ferment de liens sociaux qui contribue à l'émancipation de chacun, mais aussi à une meilleure compréhension du monde contemporain. Elles leur permettent aussi de vivre un temps d'exception, dans un lieu d'exception, d'expérimenter un vivre ensemble et un créer ensemble, une participation ensemble, en commun, ouvrir leur regard, bien sûr, sur les œuvres, la beauté des œuvres, la beauté du patrimoine, écouter en silence, se laisser émerveiller par la grandeur et la magie des lieux, mais aussi, je le disais, créer ensemble en participant à des spectacles aux côtés d'artistes professionnels. Alors, il y a beaucoup d'activités, on en fait beaucoup, beaucoup. Il y a des parcours d'éducation artistique, il y a des visites du lieu, des visites acoustiques, il y a plein de choses très intéressantes, mais je vous cite trois opérations un petit peu emblématiques que nous avons montées ces trois dernières années. La première, c'est grandir en musique avec une chorale à l'école. Alors, vous savez, c'est une idée qui m'est venue il y a 4 ans de cela, quand nos ministères de la Culture et de l'Éducation nationale de l'époque ont dit « il faut une chorale par école ». Alors, ça veut dire qu'ils ne sont pas beaucoup venus dans le milieu rural, parce que dans le milieu rural, vous savez, c'est des petites écoles, parfois il y a 12 élèves dans la classe, c'est une classe unique, donc ce n'est pas possible. C'est là que l'idée m'est venue de monter une chorale avec les écoles de notre communauté de communes, petite communauté de communes rurales, 23 communes, 14 écoles, des écoles parfois toutes petites, et on a monté une chorale, donc c'est la troisième année que cette chorale existe, qui touche plus de 180 élèves. Donc, dire que tout au long de l'année, tous les 15 jours, il y a un dumiste, c'est une professeure de chant qui est spécialisée dans l'éducation artistique, qui va dans les classes pour former les enfants, voilà, et leur apprendre à chanter, leur donner des notions de technique vocale, des notions de musique, de rythme. Et puis, il n'y a pas plus tard que hier, donc, nous avons réuni les 180 gamins, donc, qui, dans l'abbatiale, nous ont donné leur concert de fin d'année. Ça, c'est très, très important. Parce que j'ai vu déjà la progression en 3 ans, comment ces gamins arrivaient à chanter de plus en plus juste, à se comporter physiquement, à être ensemble, à avoir une harmonie, d'avoir, ne serait-ce qu'avec leur corps, avec leur voix. Voilà un petit peu cette, comment la musique aussi aide à cette édification, à cette construction de l'être intérieur. Voilà, ça c'est un projet qui nous tient à cœur, d'ailleurs qui va repartir dès l'année prochaine. Le deuxième, c'est l'école de l'oralité. On appelle ça l'école de l'oralité. Donc c'est un projet que nous avons monté à partir d'une pédagogie originale qui est basée sur l'oralité. Et ce projet propose aux élèves et aux enseignants de vivre la pratique artistique sous un angle un petit peu inédit. L'objectif est de créer des passerelles entre les arts, les cultures, les générations, et de replacer la pratique artistique au cœur du quotidien. Le travail s'est construit au cours de quatre axes majeurs, le chant, la danse, la percussion et la fabrication instrumentale. Donc de janvier à juin 22, trois artistes pluridisciplinaires ont conduit 40 élèves, dont d'un collège de Belmont, Jean-Marc, c'est chez toi. Hein. Voilà. Sur le chemin de la création artistique, Laurence, donc, avec les enfants, ils ont créé un spectacle en s'appuyant sur l'histoire de l'Occitanie comme terre d'accueil et de rencontre. Ils ont été amenés à découvrir les répertoires musicaux non seulement issus de la culture occitane par l'intermédiaire des troubadours, mais aussi ils ont tissé des passerelles avec l'Espagne des trois cultures et le bassin méditerranéen au sens large dans une recherche fondamentale de dialogue interculturel pour aller à la rencontre de l'autre. C'est bien aussi que ces enfants du milieu rural puissent aussi découvrir autre chose que ce que leur sert la télévision, mais leur dire qu'il y a un monde qui existe avec des pratiques, des cultures, des musiques. Et lors du dernier spectacle qui a été donné, les enfants ont chanté, sont même allés chanter en différentes langues. Donc c'était très intéressant de voir comment ils avaient fait ce travail. Ensuite, le troisième, c'est découvrir l'univers des spectacles. Alors là, les enfants, carrément, on va les former à l'année pour les mettre en scène avec nous. Alors, je dis à nous parce que moi-même, je participe à ces spectacles. Et ça fait plusieurs années donc, que nous montons des spectacles. Je suis content d'avoir Cécile à côté de moi, là, qui est là, parce que Cécile est auteure-compositeur, elle est compositrice, elle est chanteuse, et c'est à elle, donc, à deux reprises, j'ai demandé de créer un spectacle pour les enfants. Il y a eu La vie rêvée d'Alice, et puis cette année, c'était La Belle et le Loup, inspiré de La Belle et la Bête, voilà, où ça a été une très belle participation d'un chœur d'enfants, aux côtés de 10 acteurs, chanteurs et musiciens professionnels. Un spectacle est une véritable allégorie donc de l'homme incarné par la belle et de la nature par la bête. Et les personnages de cette fable écologique nous invitent à nous questionner sur notre rapport à la nature, aux animaux et plus largement aux vivants, afin de réinventer notre rapport au monde. Alors ce spectacle, nous l'avons monté avec deux groupes d'enfants, d'abord un groupe de 50 enfants de l'Aveyron, mais également une centaine d'enfants des quartiers un petit peu, je dirais, un peu tendus de Nîmes. Hein, voilà, là aussi, c'était très intéressant, avec des enfants, avec une masse d'enfants très métissés, et voir comment ils sont rentrés dans ce spectacle, l'émerveillement de la scène, leur rapport aux artistes, même pour nous artistes, c'est une leçon. Et ça a été vraiment un très, très bel exemple. Voilà, où là, effectivement, on va beaucoup plus loin, et l'enfant, on le mène dans une phase de création, vraiment, je dirais, optimale. Et puis, un autre, j'évoquerai tout ce que nous faisons, effectivement, l'action culturelle pour tous les publics, et de plus en plus, nous travaillons sur les publics, je dirais, on dit les publics spécifiques, hein, que ce soit les personnes âgées, nous travaillons avec trois EHPAD du territoire, mais également avec un foyer de vie de jeunes handicapés. Voilà, là aussi, nous les visitons régulièrement, nous allons travailler avec eux et nous les incluons de plus en plus dans nos spectacles. Ils sont venus chanter avec nous, ils sont venus danser avec nous pour l'école de l'oralité. Et ça, c'est très important aussi que la culture puisse s'offrir et se donner au plus large possible, au plus de monde possible. Le quatrième axe, le dernier, donc, c'est un centre de rencontre sur le dialogue interculturel. Voilà, donc organisant des colloques, des séminaires sur différentes thématiques touchant à la diversité des expressions culturelles, artistiques et musicales, mais aussi au dialogue des cultures et des religions et autour de thématiques données. Alors, cette année, nous avons eu notamment à la Pentecôte un colloque sur « Le christianisme a-t-il un avenir ?». Actuellement se déroule à l'abbaye les 6e rencontres internationales de la création musicale, où là, avec le Centre national de création musicale d'Albi, compositeurs, musiciens, musicologues se réunissent, réfléchissent effectivement aux conditions et à l'évolution de l'école de la création musicale. Et puis nous avons tous les ans, c'est la 14e année, les rencontres du film musical, dont là le 7e art aussi. Donc nous avons la chance d'avoir une très belle salle de cinéma à côté, à Camarès, dont nous l'exploitons à travers ce festival, et également un colloque sur l'art de la parole et du chant. Voilà. Voilà un petit peu toutes ces activités qui peut-être, je pense déjà, peuvent vous aider à comprendre comment on peut répondre à ces problématiques, comment on peut servir l'humain à travers la musique, à travers l'éducation artistique, à travers aussi tout ce travail que l'on doit faire de valorisation du patrimoine. On a besoin de ça, on a besoin de cet émerveillement, on a besoin de ce contact, de ces rencontres, de ces pratiques, pour justement rester effectivement des hommes, avoir la pleine mesure de notre humanité. Et je vais terminer avec un long texte. Je vais plutôt le lire parce que vous en profitiez. Un lieu où la culture prend de l'âme. C'est un peu, je crois, ce qu'est Sylvanès. Très vite, ce lieu a exercé et exerce toujours sur nous une profonde exigence par son histoire, ses racines, et par là même son sens profond. Il a été bâti par des hommes qui avaient quitté les attraits et les richesses matérielles de ce monde pour vivre l'aventure spirituelle. Cette paix qu'ils étaient venus chercher dans la vie monastique et sa règle, ils ont su au cours des siècles la traduire, par leurs prières et leurs chants, dans l'immensité des voûtes abbatiales et l'imprimer à la pierre. C'est cela qui fait la splendeur des édifices chrétiens comme Sylvanès. Ils portent l'empreinte, laissée par la louange des hommes, de la présence de Dieu. À Sylvanès, les pierres transpirent cette mystérieuse présence qui fait de l'abbatiale un lieu authentiquement spirituel. C'est aussi un lieu véritablement sacré où depuis près de 9 siècles se célèbre et se vit la liturgie. Depuis 47 ans, nous nous sommes laissés guider par le sens profond de ce lieu qui est devenu une riche et inépuisable source d'inspiration, non seulement pour nos programmes culturels et musicaux, mais aussi dans notre manière d'être, de vivre et de travailler à l'abbaye. Aujourd'hui, je peux dire que rien n'est laissé au hasard dans la conception de nos activités, de nos concerts, de nos stages, des colloques. Après tant d'années, l'abbaye a confirmé sa volonté d'être un haut lieu culturel et musical privilégié qui, à travers la musique, les chants, la danse sacrée, l'éducation artistique et la médiation culturelle, œuvre à la rencontre des cultures, des religions et des hommes, dans la confrontation, le respect mutuel et le dialogue de leur riche diversité, par une voie possible d'espérance et de paix, et pour tenir à distance toute barbarie. Ici, très souvent, dans cet écrin de pierre, nous dépassons l'esprit même du concert traditionnel pour assister à une sorte de célébration, car dans cette acoustique exceptionnelle et dans cet espace sacré porteur de signification, ces musiques retrouvent leur vérité, et par là même la beauté qui est l'éclat de cette vérité. L'abbatiale est un lieu sacré par excellence qui rend justice de l'âme et du sens de ces musiques. C'est un lieu où la musique reprend son âme en retrouvant ses racines et son sens. L'architecture du lieu est la vie qui s'y déroule dans sa qualité de rencontre, d'accueil, de convivialité et de partage, est un choc pour beaucoup de nos hôtes, et particulièrement les musiciens et les artistes qui sont à l'écoute. Les dimanches d'été, où il y a des concerts, ils assistent à un passage tout à fait naturel entre la liturgie dominicale, à laquelle souvent ils assistent ou participent, et la mise en place du concert. C'est une expérience forte qui en interpelle plus d'un, car ils ressentent une autre dimension qui les dépasse, certes, et qui les transpose dans un état qu'ils n'ont pas coutume de trouver dans un lieu traditionnel de concert. Mais quelle singularité que ce lieu où des gens viennent prier, adorer, d'autres admirer, chanter et rêver. Sylvanès transpire de cette présence infinie de Dieu, chacun le reçoit à sa manière, et tous ne l'expriment pas en tant que foi, mais c'est rare qu'il ne soit pas profondément touché et remué intérieurement. Personnellement, je suis toujours émerveillé des nombreux témoignages d'artistes qui, après un concert, viennent simplement m'exprimer leur émotion et leur joie d'avoir joué différemment dans l'abbatiale. Ils ne savent pas toujours l'expliquer, mais la sincérité de leur émotion témoigne qu'ils ont vraiment ressenti quelque chose de fort et de vrai. Maurice Zundel disait « Il y a une véritable fonction sacramentelle de la beauté par la musique », ce qui veut dire que le sommet de tout grand art, comme la musique, et de révéler une présence. Chanter une passion de Bach pendant la Semaine Sainte ou des Vêpres de la Vierge autour du 15 août, comme nous l'avons déjà fait, n'a rien de fortuit. Ce qui est vrai et fort au sein d'une liturgie peut l'être aussi au cours d'un concert. Il y a de notre part une réelle volonté qui relève de plus en plus d'une mission d'affirmer à travers notre action l'abbaye comme un lieu où naturellement s'opère une transparence entre l'art et le sacré, la création artistique et plus largement la culture, quand elle crée et renforce les liens. C'est ce qui fait aujourd'hui la force et l'originalité de ce lieu que nous voulons ouvert au plus grand nombre, car il n'est pas enfermé dans un rapport étroitement confessionnel ni exclusivement culturel. Mais parce qu'il est un lieu de mémoire, de ressourcement, de création et d'éducation artistique, un lieu d'expérience et de rencontre authentique, la proximité avec l'art est ici vécue bien autrement qu'un simple acquis de connaissances ou de techniques, mais comme une véritable aventure extérieure. Ici, la culture s'exprime en beauté et s'achève en silencieuse amitié et fraternité qui sont beauté et rapport humain. Cela, nous l'éprouvons souvent à l'issue des stages, d'un concert, d'une rencontre ou d'un colloque, et cela nous réconforte dans notre vie et la nécessité de poursuivre notre mission à Sylvanès. C'est d'autant plus essentiel pour nous que notre civilisation vit aujourd'hui une double crise du culte et de la culture. Si d'un côté le culte a des difficultés à s'ouvrir aux grandes exigences de la culture, par le drame de l'humanisme athée de l'Occident, refuse toujours d'entendre et de reconnaître ce qui sourd en elle et qui est une immense vestige du sacré. Pourtant, tous deux aspirent à la beauté. Si le culte est le service de Dieu par la magnificence de la liturgie, la culture doit être au service de la splendeur du monde, des hommes et de la beauté de la vie. Ainsi, tout culte religieux qui ne s'exprime pas dans une exigence de grande beauté, quelque part, n'accomplit pas complètement sa fonction. Quant à la culture, ce qui lui manque souvent aujourd'hui, c'est d'être une expérience humaine forte et créatrice de beauté. Elle se contente trop souvent d'être la photographie purement instantanée et éphémère du désordre et de l'énervement psychique de l'âme humaine. Elle demeure dans l'instant, l'immédiatement consommable. Elle n'entretient plus ces grands dialogues qui pourtant soupirent au cœur de l'homme avec l'immense, c'est-à-dire la création, et cet appel d'absolu qui est au cœur de la beauté de l'être. Malheureusement, une grande part de notre culture contemporaine est tellement névrosée qu'elle est, on pourrait dire, dans une situation psychanalytique d'amnésie, ou mieux encore de refoulement du beau et du sacré, et en même temps, elle ne peut s'en passer, car c'est sa condition première d'être et sa source cachée de vie. Nous avons accueilli beaucoup d'artistes, musiciens, plasticiens, qui d'instinct ont éprouvé en ces lieux une profonde complicité, une grande paix propice à la création. Nous avons accueilli beaucoup d'artistes, car nous croyons fermement que l'art, face à une culture qui n'en finit pas de s'essouffler, est une source nouvelle et inépuisable d'espérance qui puisse encore donner aux hommes le désir de vivre, d'agir et d'aimer. Et pour conclure, de façon un peu personnelle, je dirais, Sylvanès, c'est l'aventure de ma vie. J'aime simplement ce lieu, quasi charnellement, tant il accueille, enlace et protège, apaise et guérit. Chaque matin, quand je vais de mon appartement à mon bureau, je traverse l'abbatiale avec toujours autant de joie et d'émerveillement. Je m'y arrête souvent le temps d'une prière ou d'une simple contemplation. J'y respire profondément, manière de me recentrer sur l'essentiel, de faire le plein d'énergie avant de commencer une journée. Combien de fois au cours de la nuit, dans la tourmente de problèmes, je suis venu me réfugier, me recueillir dans le silence et la pénombre de l'abbatiale pour apaiser mes peurs, mes angoisses et mes soucis. J'y ai toujours retrouvé le discernement, la force et le courage de mes actions et de mes engagements. Ce lieu est unique. Il inspire, il élève, il guérit les cœurs froissés ou épuisés par la vie. En ces temps de turbulence mondiale, de séisme annoncé, de nos sociétés égoïstes et trop consommatrices, je crois à la pertinence et à la perdurance de ce lieu au service de l'homme contemporain qui souffre d'un déchirement profond de son humanité. Aujourd'hui, comme jamais auparavant, notre époque traverse dans tous les domaines une crise planétaire, crise de civilisation, certes, plus que tout. Inquiétude, précarisation morale et sociale, délitement des liens sociaux, incivisme, insécurité, appauvrissement des esprits, découragement généralisé, repli identitaire nourri par des idéologies ou des fondamentalismes religieux menaçants. Il y a bien là tous les symptômes d'un monde dans l'incapacité pour générer un nouveau et véritable progrès de l'homme et des sociétés. Mais dans cette crise, un nouveau monde ne serait-il pas en germination ? Que le fracas du vieux monde qui s'écroule rend imperceptible. Ne serait-ce pas le moment de retrouver tout le potentiel d'un renouveau humaniste et spirituel afin de faire face aux gigantesques défis de ce monde qui s'annonce ? Plus que jamais, la culture et les arts, quand ils sont au service des humains et de la terre, la valorisation de nos patrimoines, l'éducation artistique des jeunes générations et la création artistique s'élève comme des fervents de liens sociaux, puissants remparts contre la déliquescence de nos sociétés, capables de refonder un socle de valeurs universelles et communes, où chacun pourra s'identifier et trouver la force, la confiance et le courage de participer à une nouvelle aventure humaine, renouvelée et riche de nos diversités culturelles et fonder une communauté de destin. Notre monde humain n'est pas en perdition, il mute. Plutôt que d'y voir un effondrement, parlons de métamorphose. Ce n'est pas l'histoire humaine qui fait naufrage, c'est une séquence de celle-ci qui s'achève. Autant dire que l'espérance est plus que jamais d'actualité. Une espérance qui n'a rien à voir avec un attentisme béat, car il ne peut y avoir de véritable espérance sans engagement, sans idéal créateur et sans responsabilité assumée. C'est ce que nous avons toujours cru et défendu à Sylvanès, afin de tenter de répondre d'une certaine façon à cette souffrance, à ce vide intérieur en offrant du sens, de la beauté, une spiritualité vivante et ouverte, une fraternité accueillante et respectueuse à toutes les personnes qui en expriment le besoin. Merci de votre attention. Alors, petit aparté, je vous montre le document qui va peut-être vous paraître un peu étrange, mais vous savez que nous sommes dans un projet d'extension de l'abbaye, dont il y a eu un concours européen qui a été... pour